Et donc le divorce entre la forêt et l'élevage, entre la forêt et l'agriculture au sens plus large, c'est bien, ça a commencé avec l'assolement triennal qui a du coup rendu la forêt moins indispensable pour le maintien de la fertilité des sols sous culture. Et puis, il y a quand même eu un maintien, dans cet assolement triennal, un maintien des structures arborées des paysages agricoles, donc tout ce qui avait été inventé en matière d'association entre des arbres et des champs, des forêts linéaires, des bosquets au milieu des cultures, tout ça a été maintenu. Jusqu'à, évidemment, ce que vous connaissez tous, l'avènement de l'agriculture intensive, du machinisme agricole lourd, de la productivité, de la recherche de productivité absolue en agriculture, qui a commencé à détruire ces structures arborées du paysage, qui a achevé le divorce entre la forêt et l'élevage. Et donc l'arbre, à partir de ce moment où on a décidé de penser la productivité à l'hectare et de penser au machinisme, l'arbre est devenu vraiment l'ennemi de l'agriculteur, l'ennemi en tout cas du tracteur, et a été totalement éradiqué des paysages. Alors des paysages céréaliers, c'est évident. Et de plus en plus, même si le remembrement qui a été pensé hein, au moment de la guerre et qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et de façon massive à partir des années 70, on a montré tous les effets nocifs pour l'environnement et pour les sols de ce remembrement. Ça continue aujourd'hui. Dès qu'un des zones d'élevage traditionnelles sont converties à la céréaliculture, les dernières structures arborées qui avaient été conservées jusqu'à présent sautent. C'est flagrant. Ce qui est étonnant aussi, enfin ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'on associe aussi beaucoup l'élevage à la déforestation. Alors c'est vrai dans nos structures agricoles et c'est vrai aussi en Amazonie où on a tout un système d'élevage intensif pionnier sur la forêt tropicale, ce qui amène à dire que l'élevage c'est l'ennemi de la forêt et l'élevage c'est l'ennemi de l'arbre. Non, pas du tout, et on va le voir. On va voir à quel point c'est important de maintenir, de repenser, de retrouver cette alliance entre les animaux et les arbres. Alors pourquoi ? C'est une alliance qui existe dans tous les pays. Je n'ai pas résisté quand même à l'envie de vous mettre tout en haut une photo d'agroforêt tropicale. Il n'y a pas beaucoup d'élevage hein, sous les tropiques. Il y a beaucoup de zoonoses, de maladies des animaux qui font qu'il n'y a pas énormément d'élevage et que l'élevage est souvent confiné autour des villages. Néanmoins, il marche très bien avec ces grandes agroforêts tropicales parce que les propriétaires de bétail vont récolter du fourrage dans ces grandes agroforêts et le ramènent dans en tout cas en Indonésie, dans ce bétail à ce bétail qui est en stabulation. Là, on n'est pas dans la photo du haut, on n'est pas en Indonésie, on est aux Marquises. Et la végétation des îles Marquises est une végétation quasiment entièrement agroforestière. C'est-à-dire que tous les arbres que vous voyez là et une grande partie des plantes herbacées sont destinées à l'alimentation humaine. On a des cocotiers, on a de la châtaigne de Tahiti, on a des manguiers, on a des bananiers. Et là, ces grosses feuilles, hop, non, c'était pas du tout la bonne. Voilà, oh. Voilà. Ça, c'est des taro, donc ça produit des féculents. Et puis, donc... Cette complémentarité élevage et arbre, on la retrouve dans le bocage. C'est ce que vous avez en bas à gauche. Et ce que vous avez en bas à droite, je n'ai pas réussi à trouver d'animaux qui passaient à ce moment-là, c'est l'oasis. L'oasis, donc en plein désert, dans des forêts totalement reconstruites, on a aussi cette complémentarité essentielle entre l'élevage, la culture de l'arbre et les cultures annuelles. Là, encore une fois, les troupeaux, donc on a beaucoup de troupeaux de moutons et de chèvres dans ces oasis. Les troupeaux sont en général emmenés en parcours en dehors de l'oasis et ils reviennent dans l'oasis où ils vont. Donc ils reviennent dans des bergeries et le fumier des bergeries, donc c'est un fumier qui est constitué à partir des plantes sauvages extérieures à l'oasis. Le fumier des bergeries va être redistribué sur les champs de l'oasis. Donc là encore, une fertilité qui est apportée de loin à travers les animaux. C'est un peu désagréable, cette fluctuation de lumière. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut régler la lumière ou pas ? Ah, vous n'y arrivez pas, d'accord, c'est ça. Bon, bah alors... Bah là, c'est bien, oui, oui. C'est surtout la fluctuation qui est désagréable. Pas grave. Alors, revenons à ce contexte d'aridité. Quels sont les enjeux? Pourquoi s'intéresser à des milieux arides? Ça nous paraît encore un peu loin. Hein, c'est de l'autre côté de l'Afrique. On a l'impression que ce n'est pas énorme. C'est quand même 41% des terres émergées de la planète. Ce n'est pas rien. Donc, 41%. Presque la moitié des terres émergées de la planète sont en condition d'aridité. C'est 44%, donc encore une fois, pas loin de la moitié des terres cultivées qui sont cultivées dans des conditions d'aridité, mais surtout parce que, pour nous, notre évolution climatique, les modèles d'évolution climatique prédisent une extension de ces conditions d'aridité à des zones qui, jusqu'à présent, ne les avaient pas connues. Je pense qu'on est tous témoins aujourd'hui du fait que, oui, nos sols s'assèchent, nos étés sont de plus en plus secs, les pluies sont de plus en plus rares, en tout cas imprévisibles, ce qui est exactement les conditions, la définition des conditions de l'aridité, on va le voir. Bon, je vous mets tout ça à la fois. Les contraintes de l'aridité, bon, c'est d'abord les précipitations, donc des précipitations très saisonnières, rapides, brutales. En volume, ce n'est pas nécessairement moins que dans des climats tempérés. Il pleut en Méditerranée à peu près 700 mm d'eau. Il tombe 700 mm d'eau, c'est à peu près ce qui tombe dans la région parisienne. La seule différence, c'est que ça ne tombe pas au même moment ni de la même façon. Donc il y a deux saisons des pluies en Méditerranée, le printemps et l'automne. Et c'est quelques jours au printemps, quelques jours en automne où il pleut de façon très violente. Donc les sols ne vont pas réagir du tout de la même façon à ces précipitations qui tombent de façon ponctuelle et brutale. Une insolation, surtout en été, qui est très forte. Donc le soleil tape vraiment. Des températures, là aussi en été, qui sont élevées, températures de l'air. Même en hiver, on peut avoir des températures de l'air à cause de cette insolation très forte. Donc une amplitude thermique extrême. Là aussi, c'est connu dans les déserts. Il peut faire moins 10 l'hiver et plus 40, moins 10 la nuit et plus 30 ou plus 40 pendant la journée. Une humidité de l'air très faible, là aussi, donc toute la végétation a tendance à se dessécher, et des vents qui viennent accentuer cette humidité de l'air très faible, donc des vents violents, secs et assez présents dans ces régions. Donc tout ça entraîne globalement un déficit hydrique. C'est ce qu'il faut retenir. Les conditions d'aridité, c'est quoi? C'est un manque d'eau quasi permanent tout au long de l'année du fait de toutes ces pluies, du vent, de l'insolation. Ça a aussi un impact sur les sols et leur fertilité, évidemment. Les pluies qui tombent de façon très forte, ça va compacter des sols, surtout s'il n'y a pas énorme de couverture permanente des sols, même si on a des arbres. Les vents sur des sols un peu déstructurés, ça va faire des grands vents de sable, des grands vents de poussière. Donc les sols sont compactés, les sols sont lessivés, les sols sont érodés. Tout ça, bien évidemment, a été accentué par des conditions historiques qui ont contribué à la dégradation de ces sols. Et les sols dénudés, ça, on le sait tous, mais il faut le réapprendre ici. Un sol doit être couvert en permanence, le plus possible, par de la végétation. Un sol dénudé, c'est un sol qu'on est en train de tuer. Alors, dans les milieux arides de l'Afrique du Nord, c'est déjà fait. Ici, c'est en train d'arriver. Il y a énormément de sols, même dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'aridité, qui sont des sols morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts 3 mois de l'année. Et donc, pendant tout le reste de l'année, ils sont à nu. Donc, ouverts aux pluies, ouverts à la chaleur. Dès que la température du sol augmente au-delà de 30 degrés, ça détruit les micro-organismes du sol. Donc, ça détruit l'activité biologique des sols et ça détruit la capacité des sols à faire de la fertilité, donc à travers l'humus. L'importance de l'arbre... On l'a vu tout au long de ces 2 jours, l'arbre, c'est vraiment le rempart, le premier rempart. Et l'arbre, ça peut être la forêt en massif ou la forêt en arbre isolé. C'est le rempart contre l'aridification. On ne combattra pas l'aridification à coup de biotechnologie. Il faut d'abord réintroduire de l'arbre. La biotechnologie, peut-être, ça peut aider, on ne sait jamais, mais pas aux dépens de l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, comme dit Hervé Covès, l'arbre, ça cultive l'eau. Surtout dans ces conditions d'aridité, ça cultive l'eau parce que ça permet la pénétration des eaux pluviales. C'est aussi un ascenseur hydrique qui permet donc aux eaux qui sont dans les couches profondes du sol de remonter vers la surface et d'être mises à disposition des cultures ou d'un couvert buissonnant ou herbacé. Donc ça redistribue aussi l'eau à travers cet ascenseur hydrique à des plantes qui en ont besoin et qui sont incapables d'aller le chercher toutes seules. L'arbre ou la forêt, c'est aussi les conditions d'existence de la biodiversité, c'est des habitats. C'est de la nourriture pour des animaux, c'est de la fertilité pour le sol, donc ça va nourrir aussi toute la biodiversité du sol. Sans arbres, la biodiversité décroît de façon directe et indirecte. Le climat, évidemment, le climat, l'arbre stocke du carbone et produit de l'oxygène comme partout sur cette planète. Je vous ai parlé des sols, donc l'arbre là est protecteur. Il ne suffit pas, hein, mais il est protecteur, il est régénérant, il est fertilisant, il est hydratant. Et l'idéal, c'est bien sûr des arbres associés à un couvert, une couverture du sol herbacée ou buissonnante pour le protéger jusqu'en bas. Donc l'arbre aussi important pour les cultures, et ça on va le voir à travers les quelques images que je vais vous montrer, parce qu'il procure de l'humidité, donc au-delà de ce qu'il fait sur les sols, il procure aussi directement de l'humidité par sa couronne, par sa présence. Il procure de la fraîcheur et de l'ombrage, et dans les conditions, quand il fait chaud dehors, il est essentiel de trouver des points d'ombrage. C'était dans une des photos du haut. Même en milieu tempéré, pendant l'été, vous voyez que les troupeaux vont se réfugier à l'ombre des arbres parce qu'ils ne supportent pas l'insolation, pas plus que nous d'ailleurs, une insolation constante toute la journée. Ça fait autant de mal au bétail que ça nous fait du mal. Donc l'importance de l'arbre uniquement pour l'ombrage, il ne faut pas l'oublier. Et puis évidemment pour la production, c'est classique. Donc tout ça pour vous dire que l'agroforesterie, c'est un enjeu majeur pour les zones arides. On a tendance à parler d'agriculture aux zones tempérées. On ferait mieux de penser de quelle agroforesterie on va avoir besoin dans ces conditions où le climat devient de plus en plus sec et où nos sols sont aussi de plus en plus desséchés, donc ressemblent de plus en plus aux sols des milieux arides qu'on connaît déjà. Et où est-ce qu'on peut apprendre? On peut essayer d'apprendre, d'innover, d'expérimenter. Les chercheurs ne vont pas tout nous dire, certainement pas, parce qu'ils ne connaissent souvent pas grand-chose. C'est ce qui existe en matière d'agroforesterie locale, paysanne, qui nous importe en premier lieu, parce que là, c'est des choses, des savoirs, des pratiques qui ont été testées sur des centaines de générations, dans des conditions très diverses, qui ont été adaptées. Et donc, apprendre, comprendre ce que font les gens, comment ils le font, pourquoi ils le font dans ces milieux arides, c'est à mon avis la première démarche qu'on devrait avoir en agroforesterie, plutôt que de faire des expérimentations de quel espacement des arbres il faut pour des cultures et quel est l'apport fourrager des arbres pour les animaux. C'est important aussi, mais si on veut faire, et c'est urgent, de l'agroforesterie dans nos pays, il faut aller voir ce que ça font encore les paysans, même si c'est de l'autre côté de la Méditerranée, parce que chez nous, on a un peu tout détruit et donc on a un peu tout oublié, et c'est fort dommage. Donc je vais insister sur deux points, c'est comment ces pratiques paysannes nous invitent à regarder l'arbre autrement, à réinventer ce que c'est qu'un arbre. Parce que c'est une réinvention, ce qu'ont fait les agropasteurs dont je vais vous parler, c'est une réinvention de l'arbre. L'arbre, ce n'est pas un truc qui va pousser, on plante une graine, on plante un gland et pof, on a un chêne. Dans les conditions d'aridité, c'est beaucoup plus complexe. Et dans les deux sens du terme, c'est plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, vous allez le voir. Et puis on parlera aussi de ces écosystèmes forestiers des zones arides et comment ils ont inspiré un design agroforestier tout à fait intelligent pour les zones arides. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut réinventer l'arbre dans des conditions d'aridité? Pas uniquement d'ailleurs dans des conditions d'aridité, mais un arbre qui convienne à l'agriculture, qui convienne à l'élevage, qui soit pas, c'est pas un arbre forestier, un arbre forestier avec un grand fût et un petit houppier, c'est bon pour les forestiers, c'est un arbre qui va produire du bois de charpente, du bois de marine, c'est pour ça que les forêts ont été gérées à partir de colbert essentiellement, c'est pour avoir du gros bois, ça convient pas aux paysans parce qu'il ne saura pas quoi en faire. Par contre, un arbre paysan, il faut que ça fournisse du fourrage, du petit bois, du bois de feu, des perches pour les clôtures, du bois pour les maisons, du bois pour l'artisanat, des fruits, etc., etc. Donc il va falloir inventer un arbre, et il faut que ce soit, tout ça soit relativement facilement récoltable. Donc il faut réinventer un arbre qui permette d'avoir facilement toutes ces productions et de les récolter facilement. Et ça s'appelle la trogne. Donc la trogne, c'est un arbre qu'on va tailler régulièrement de façon à lui faire produire régulièrement des rejets, hein, des jeunes pousses qu'on va utiliser pour divers usages, comme vous allez le voir. Et cette trogne, donc vous avez... Voilà. Oh non, pardon. Voilà, vous avez deux formes de trogne. La première, qu'on appelle une émonde, avec une taille latérale. Est-ce que c'est ce que vous avez retrouvé essentiellement sur les frênes qu'on a dans, un peu dans tout le Massif central, sur une grande partie des frênes, en tout cas sur les plateaux, hein, dans le Cantal, sur le plateau de l'Aubrac. On a beaucoup de ces frênes qui ressemblent un petit peu à ça. Vous le voyez là. Et puis, on a le têtard. Donc, ça, c'est le saule, hein, par exemple. Des arbres qu'on va tailler à la tête. Donc, c'est des petits troncs assez courts, 2 mètres de haut. Le tout, c'est qu'il y ait suffisamment de troncs pour que l'arbre soit ce qu'on appelle défensable, c'est-à-dire que les animaux n'abîment pas ce qu'il y a au-dessus, la couronne, là. Pour que c'est en... Alors, c'est, comme dit Dominique Mention, qui est un grand spécialiste, le spécialiste des trognes en France, l'arbre paysan par excellence, c'est une trogne, ou la trogne est l'arbre paysan par excellence. Et c'est aussi... en quelque sorte une forêt suspendue, parce qu'un paysan, il a besoin que ses animaux puissent passer sous les arbres sans les détruire. S'il y a une petite pousse par terre, ben les moutons vont la manger. Donc l'avenir de l'arbre est fortement compromis. Quand on a une trogne, on a cette forêt suspendue qui permet à la fois la production forestière et qui permet aussi l'élevage dans les parcours ou dans les prés. Alors pourquoi est-ce qu'on va trogner ? La plupart des trognes dans les pays d'élevage sont produites pour, en partie pour, pas uniquement pour, mais pour la fourniture de fourrage donc foliaire qui sert d'alimentation au bétail. Donc là vous avez un frêne du Haut Atlas marocain, le frêne dimorphe. C'est un frêne qu'on ne trouve pas chez nous, hein, qui est un frêne très particulier, qui pousse dans des conditions extrêmes. Donc il résiste au froid à moins 20, moins 30, il résiste à la neige, il résiste l'été à des chaleurs qui peuvent monter à 40, 45, il résiste au manque d'eau. C'est un arbre qu'on devrait songer à peut-être acclimater chez nous dans certaines zones et qui est la providence des bergers. Et donc là, vous voyez une taille de ce frêne dimorphe. Donc cet arbre, vous voyez, pour tailler, pour trogner, on est obligé de monter dans l'arbre. Ce qui peut être jugé par certains relativement dégradant, et je renvoie à la conférence de Thierry, et je pense qu'il va en reparler, hein. Qui est-ce qui monte dans les arbres ? Ben, c'est les singes, et nous en sommes descendus, hein, et on a trop tendance un peu à se dire, ben, nous... on est descendu de l'arbre, on ne va pas y remonter. Tout ça pour vous dire que c'est considéré très négativement à la fois par des spécialistes de l'arbre et par des spécialistes de l'agriculture. Et cette considération négative sur ces gens qui grimpent dans l'arbre a été totalement intégrée par les agriculteurs eux-mêmes et par les bergers qui disent, voilà, nous, notre métier, c'est de grimper dans les arbres. Hein, on est guère mieux que des chèvres ou des singes. Des chèvres au Maroc, parce qu'au Maroc, les chèvres montent dans les arbres et des singes dans les milieux tropicaux. Voilà. Et c'est vrai que tous ces paysans que j'ai interrogés qui montent dans les arbres pour une raison ou une autre disent, on n'est pas fiers de ça. Et c'est terrible d'en arriver à ça, c'est-à-dire d'arriver à dire, je fais un métier de singe ou un métier de chèvre. Là aussi, il y a des choses à réhabiliter. Donc, cette trogne, ce paysan, ce berger, va couper tout l'arbre. C'est-à-dire que sur la journée ou sur la semaine, il va couper tous ces rejets de l'arbre pour les donner à manger à son bétail, à son troupeau. Et puis après, il va laisser les rejets repousser et il ne reviendra pas avant 4, 5 ou 6 ans. Donc ce n'est pas une taille au fur et à mesure des besoins. C'est une taille qui est raisonnée, donc qui repose aussi sur un savoir sur la physiologie de l'arbre, sur l'écologie de l'arbre, à quel rythme on peut trogner pour produire suffisamment de fourrage de bonne qualité pour les animaux sans sans fatiguer l'arbre. Et donc, selon chaque espèce d'arbre, ce rythme peut changer, ce cycle peut changer. Et donc, c'est une véritable connaissance non seulement de la physiologie de l'arbre par le berger, mais aussi de la physiologie du troupeau par rapport à l'arbre. C'est-à-dire que si l'arbre est trop jeune, si on ne trogne pas la première année, le feuillage est trop gorgé d'eau et aussi souvent trop gorgé de tanins, comme il peut l'être aussi en fin de printemps. Donc, quand on donne pas en général ce fourrage à manger aux animaux en fin de printemps parce qu'il est trop riche en tanins. Et donc, ça fait mal au ventre aux animaux qui vont se retrouver avec la diarrhée. Néanmoins, on en donne un petit peu parce que ça permet, ces tanins permettent aussi aux animaux de se déparasiter. Et donc, quand on commence à les sortir à la fin de l'hiver, hein, ils sont relativement pleins de parasites. C'est souvent aussi dans d'autres régions, quand ils vont monter en alpage, donc plus haut, et qu'ils vont se retrouver mélangés à d'autres troupeaux, c'est une espèce de respect collectif. On essaye de monter des troupeaux qui sont le plus sains possible, et pour ça, il faut qu'ils soient déparasités. Et le déparasitage, ça se fait souvent à travers la nourriture de l'arbre. Et par contre, au mois de septembre, le taux de tanin des feuilles d'arbre a suffisamment chuté pour qu'on puisse donner à manger aux troupeaux sans qu'ils aient mal au ventre. Donc, c'est une double connaissance hein, qu'ont les bergers sur qu'est-ce que fait l'arbre selon les différentes saisons et comment le troupeau réagit à ça. C'est, en général, nous, on a des physiologistes de l'arbre et des physiologistes de l'animal qui chacun vont étudier leur petit truc dans leur coin. Le berger, lui, a une connaissance intégrale de tout ce qui se passe entre son troupeau, l'arbre, le climat, la saison, etc. etc. Donc, je reviens aux frênes en aubrac hein, pour vous montrer que ce n'est pas uniquement une pratique de l'autre bout de la Méditerranée, une pratique relativement archaïque. On a aussi encore du trognage de frênes sur le plateau de l'Aubrac, sur les plateaux du Cantal, en fin d'été, pour donner à manger aux animaux. Voilà. Oh non. Bon. Donc voilà, vous voyez que ben oui, c'est des vaches, hein, c'est des bovins qui vont consommer les feuilles de frêne. Et certaines années très sèches, là vous voyez, on a encore de l'herbe, hein, c'était une belle année ça, en Aubrac. Mais certaines années, les pelouses sont sèches et les troupeaux survivent grâce à ce fourrage du frêne. Et quand on coupe, donc là vous voyez, c'est une combinaison entre les mondes et le têtard. Hein. Quand on coupe, on va trier tout ce qu'on a coupé, on va recouper ce qu'on a trogné, et on va d'un côté mettre le gros bois, de l'autre côté mettre le bois de feu, et de l'autre côté mettre le fourrage. Donc pour pouvoir utiliser cette production de la trogne selon les usages qu'on cherche. On reste encore en Méditerranée, on reste sur les traces. Certes, c'est plus très actif aujourd'hui, mais sur ces traces de trogne qu'on retrouve partout en Méditerranée, en particulier en Corse. Dans le nord de la Corse, il y a des forêts de trogne. Et dans ce village-là, qui est dans le nord, au-dessus de Calvi, il y a des forêts de trogne de chêne sessile et des forêts de trogne de chêne vert. Donc en bas c'est le chêne vert et plus haut c'est le chêne sessile. C'était destiné à alimenter les bovins parce que dans cette région, jusqu'avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une production très importante de bœufs de travail. Et donc ces bœufs de labour, il y a très peu de pâturage à Olmécapel par exemple, ces bœufs de labour étaient alimentés essentiellement à partir du fourrage des chênes. Et on en trouve encore, voilà, ces traces. Alors vous remarquerez que cette trogne-là est très particulière. Hein. Elle a ce qu'on appelle un plateau, et j'y reviendrai dans pas longtemps. Essayez de vous en souvenir. Donc des trognes en plateau, il y a deux plateaux, il y en a un là et un là. Et nous y voilà. Donc les trognes forestières peuvent aussi être taillées pour la production fruitière. Vous savez tous que les arbres fruitiers sont taillés pour la production fruitière, et c'est moins connu pour les arbres forestiers. Et donc, en particulier dans ce très beau système agroforestier qu'est la DSA. Donc, c'est de vastes forêts-parcs dans le centre de l'Espagne et dans le Portugal, dans le nord du Portugal, qu'on appelle donc DSA en Espagne, Montados Portugal. c'est des grandes forêts, parcs, des parcs agroforestiers, j'y reviendrai un peu plus tard, et qui sont dominés par des chênes, chênes verts, chênes lièges, pardon, essentiellement des chênes verts. Il y a d'autres arbres, hein, on verra ça plus tard. Et vous voyez cette forme très particulière des chênes. On croirait presque des oliviers. Hein. Et donc, c'est voilà, là aussi, donc c'est vraiment taillé en plateau ou en corbeille de façon à stimuler la production fruitière. Comme on taille un olivier, exactement de la même façon. Alors, la production fruitière, vous allez me dire du gland, mais pourquoi faire ? Voilà, vous le savez, hein, certains. Voilà. Entre autres pour la production porcine, pour cette production de là, vous avez des cochons de la race Pata Negra. Et le jambon, la charcuterie de la DSA à partir de ce petit cochon noir est une des charcuteries les plus recherchées au monde et les plus chères du monde. Et cette charcuterie, les porcs sont nourris, ont une alimentation très diversifiée selon les saisons. Là, on était au mois de mai et vous voyez que les cochons mangent de l'herbe avec un immense plaisir. Et là, ils n'ont pas besoin de fuir hein, pour aller chercher des vers ou pour aller chercher des racines. Il y a de l'herbe en abondance et ils vont manger cette herbe. Et en fin d'été, ils vont être alimentés aux glands, donc à la fois avec la chute naturelle des glands, mais souvent les arbres sont gaulés, comme on pouvait faire aussi pour les olives, pour accélérer la chute. Et ça, ça engraisse les porcs. Et ça engraisse les porcs juste avant la saison d'abattage qui commence à partir du mois de décembre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a étudié la qualité de la graisse de ces porcs engraissés aux glands, à la châtaigne aussi, hein, on fait un peu la même chose. C'est une graisse très riche en acides gras, en oméga 3. La graisse des porcs engraissés au maïs, au complément, c'est de l'oméga 6, c'est vraiment pas bon. Et donc, la qualité de l'alimentation des porcs se retrouve dans la qualité de leur gras, et donc dans la qualité de ce que nous allons ingérer. Donc, manger du porc agroforestier, aucun problème pour le cholestérol. Mais manger du cochon élevé dans les conditions carcérales de l'industrie, c'est très mauvais. Mais donc, ce n'est pas le cochon et la graisse de cochon qui est mauvaise pour le cholestérol. C'est parce que le cochon mange des cochonneries que c'est mauvais pour nous. Ces porcs-là qui sont élevés à partir d'herbes et de nourriture forestière sont absolument sans danger pour notre santé. On retrouve voilà, ces formes en plateau sur ces trognes corses dont je vous ai parlé, mais sur des trognes aussi qu'on va retrouver dans la garrigue languedocienne au-delà de Montpellier, par exemple. Ces mêmes formes très ouvertes. Et là, on reconnaît cette recherche d'une taille pour la production fruitière. Alors, pourquoi ? J'imagine... ça y est, il y a des problèmes de contact électrique dans cette... Je vais essayer de parler plus fort, donc... J'imagine, c'est une hypothèse, parce qu'il n'y a plus de mémoire sur les trognes aujourd'hui en Corse, hein, que cette taille en corbeille, cette taille fruitière, devait être elle aussi destinée au porc. On connaît aujourd'hui la production de porc et donc de charcuterie corse à partir de châtaignes. C'est plus haut dans la montagne, là on est un peu bas, et donc il n'y a pas de châtaigniers, il n'y a que des chênes. Et pour, très certainement pour augmenter cette production fruitière de glands pour les chênes, il y a eu ces tailles qui permettaient, donc taille fruitière, mais aussi de l'alimentation donc, en fourrage vert pour les animaux et du bois de feu ou de construction à partir des perches. Ça marche ? Bon, ça va faire du va-et-vient encore. On peut trogner aussi, et on trogne aussi le plus souvent pour d'autres usages, combinés au premier, hein, combinés aux deux premiers, c'est pour la construction. Alors construction ou artisanat, hein, le saule c'est pour l'artisanat, pour la construction. Et là je vous ramène au Maroc, où on est toujours sur ce frêne dimorphe, les deux côtés. Et dans ces régions, on construit des maisons, ben, y a quelques pierres, mais il faut quand même du bois pour faire les charpentes des toits. Qui sont des toits plats, hein. On a besoin de perches. Et donc, les perches sont fournies par cet arbre, par le frêne, toujours. Et c'est la façon de tailler, le rythme de taille permet de produire des perches déjà calibrées. C'est-à-dire que toutes les perches de cet arbre auront plus ou moins le même diamètre, et elles auront toutes la même hauteur. Et donc, vous voyez là qu'il y a aussi un émondage des brins pour leur permettre de croître un peu plus vite en hauteur. Donc, on a eu un trognage à la tête et puis on a aussi un émondage pour permettre à ces brins qui deviendront des perches de pousser. Et quand on va récolter, là, c'est au bout d'une quinzaine d'années, toutes les perches auront la même taille et donc il suffira d'aller les poser sur le toit. Donc, c'est... Là, le façonnage du bois est pensé en amont de façon à produire des perches qui sont déjà façonnées, déjà prêtes à l'emploi, qui n'ont pas besoin de passer par la scierie pour être mises au calibre. Et là, vous avez un genévrier turifère, donc un peu plus haut dans la montagne, marocaine toujours, qui est lui aussi taillé pour la fourniture de poutres. Et ces poutres-là ont une trentaine d'années et elles sont prêtes à être récoltées. Quand dans une famille naît un garçon, le chef de famille demande l'autorisation à l'assemblée du village, la Jemaa, d'aller travailler un genévrier dans la forêt de façon à ce que 30 ans plus tard, son fils, quand il va construire sa maison, puisse avoir le bois nécessaire pour le construire. Donc vous voyez l'anticipation, hein. C'est vraiment une anticipation, mais une anticipation qui est aussi avec une préoccupation intergénérationnelle. Là, on taille pour ses enfants. De toute façon, quand on produit, quand on travaille avec l'arbre, on est toujours dans l'intergénérationnel sur le temps long. Hein. Mais là, on travaille l'arbre pour l'enfant qui va s'établir une trentaine d'années après. Et voilà, vous avez ce que devient une trogne. Donc, ces différentes façons de trogner sont souvent combinées sur le même arbre et ça donne ces trognes multiples qui font des arbres absolument gigantesques. Vous verrez pourquoi aussi ils sont aussi gros. C'est pas que la trogne, mais cet arbre-là produit des perches, produit du fourrage, produit des fruits. Hein. Et je ne vous ai pas parlé des fruits du frêne, mais les fruits du frêne sont consommés à la fois par les animaux. C'est une vraie cure de vitamines avant l'hiver. C'est du concentré de nutriments, bien plus concentré que ce qu'on pourrait acheter sur les marchés. Ça rentre aussi dans certaines préparations médicinales et dans la fabrication du ras el hanout. Donc, ces mélanges d'épices qui sont faits par les épiciers. Donc, c'est aussi un fruit qui peut être commercialisé. Donc, vous voyez, ce simple arbre, s'il pousse tout seul, il va jamais devenir comme ça, il sera jamais majestueux comme ça, mais à travers des générations et des générations de soins, de taille, va donner cet arbre monumental qui produit des feuilles, des fruits, des perches et du bois de charpente quand on en a besoin. Alors la qualité des trognes, c'est quoi? C'est d'abord la longévité. Un arbre trognier dure beaucoup plus longtemps que le même arbre poussant donc sans être taillé, ça c'est prouvé. Ce genévrier turifère que vous avez là a 600-700 ans, très certainement. Cette trogne de pistachier de l'Atlas, là aussi, a plusieurs centaines d'années. Si ces arbres n'étaient pas trogniers, ils dureraient moins longtemps, ça a été prouvé. Productivité accrue aussi, par rapport à un arbre qui va pousser dans des conditions forestières, donc pas dans n'importe quelle condition forestière, mais en tout cas dans des peuplements plus ou moins monospécifiques, où là, il y a vraiment de la concurrence entre les arbres. Et pourquoi? Alors, pourquoi cette longévité? Pourquoi cette productivité? Je ne sais pas si j'ai ça juste après, mais c'est... Alors, la trogne permet à la fois un rajeunissement de l'arbre, un rajeunissement cyclique, continue de l'arbre, donc il ne peut pas vieillir. Les phénomènes de sénescence ne sont pas activés. Et là, il faudrait effectivement, comme disait Hans hier, avoir une étude un peu plus fine du côté chimie des arbres et hormones pour voir ce qui se passe exactement quand on trogne. Donc c'est un rajeunissement qui produit des rejets. Un rejet, c'est une réitération, donc ça va refaire un jeune arbre. Au lieu d'aller planter votre graine, ben vous allez refaire un jeune arbre sur votre structure, sur votre tronc tel que vous l'avez, tel qu'elle a été construite au fil des ans. Et cette pousse-là va avoir, parce que les réitérations, ça a été prouvé, ont leur propre système vasculaire et leur propre système racinaire. Et donc, à la fois, ces réitérations sont autonomes, mais en taillant, on provoque aussi la réitération du système racinaire. Et donc, une démultiplication du système racinaire. C'est très certainement pour ça que ces arbres sont beaucoup plus longévifs et beaucoup plus productifs que des arbres qui ne sont pas tronniers. C'est parce qu'ils ont un système racinaire démultiplié par rapport à des arbres non tronniers. Effectivement, donc, il y a une résistance marquée à la sécheresse aussi, hein. Très certainement du fait de ce système racinaire démultiplié. Là, on est sur des pistachiers de l'Atlas dans l'est du Maroc, à la frontière avec l'Algérie. Une zone totalement steppique, hein, des steppes à végétation buissonnante très dispersée. Et les seuls arbres qui existent, qui sont là, sont ces pistachiers de l'Atlas qui sont, vous le voyez, d'anciennes trognes. En tout cas, là, elles n'ont pas été taillées depuis un certain temps. Et pour répondre, je ne sais pas où je vais après. Voilà, ben oui, je vous l'ai dit. Donc, ce système racinaire démultiplié, la trogne, quand on s'arrête de la tailler, effectivement, ça peut la fragiliser. Parce que d'un coup elle perd son rythme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la reprendre. Hein. On peut reprendre beaucoup plus facilement des arbres, retrogner plus facilement des arbres qui ont déjà été trogniés que des arbres qui n'ont jamais été trogniés. Et là, ça va leur faire le choc de leur vie et ils risquent d'y passer. Une trogne, elle va retrouver dans cette mémoire de la régénération, hein, de l'activation des bourgeons latents. Et ce qu'on a remarqué au mois de septembre en Corse, c'est une forêt de trogne qui avait été abandonnée et qui a été reprise il y a une trentaine d'années par des forestiers, parce qu'ils avaient fait un sentier touristique. Et donc, ils avaient repris les arbres qui leur semblaient les plus fragiles, ceux qui risquaient d'avoir des branches qui tomberaient sur les touristes, ce qu'il ne faut surtout pas avoir, parce que sinon, ils risquent d'avoir des problèmes. Donc, ils avaient retrogné une partie des chênes verts de la forêt. Et ça, c'était il y a 30 ans. Donc, on y est repassé au mois de septembre. Tous les chênes qui avaient été trognés il y a 30 ans étaient en pleine forme. Vraiment pleine forme, en tout vert, malgré deux étés très secs. Les chênes qui n'avaient pas été repris il y a 30 ans étaient en mauvais état. Certains étaient vraiment en train de mourir. Donc, si on les reprenait aujourd'hui, sans doute qu'ils reprendraient. Mais ça montre à quel point la trogne permet une régénération de l'arbre, même si ça n'a pas été pratiqué pendant 30, 40 ans. Dans ces autres pratiques qui permettent de fabriquer des surarbres, hein, j'ai appelé ça des surarbres, comme on peut parler de surhommes, c'est des arbres un peu démultipliés. Et là, on est toujours sur le frêne dimorphe. C'est cette pratique très étonnante de formation d'un arbre à partir de plusieurs germinations, de plusieurs tiges. Et comment on fait ? Eh bien, on va avoir plusieurs germinations dans un cercle entre 50 et 1 mètre, 50 cm et 1 mètre de diamètre. On fait germer ou on fait régénérer plusieurs souches et donc plusieurs brins qui vont pousser et qu'on va protéger avec ces murs. Là, ces murs, c'est essentiellement fait pour les protéger du bétail, hein, parce que si devant ces germinations, ou en tout cas ces jeunes pousses, les animaux qui passent risquent fort de les brouter, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas d'avenir. Donc si on veut qu'ils aient un avenir, il faut quand même les protéger pendant quelques années. Ça, c'est une façon de faire. Et cette façon de faire a l'autre avantage que, comme ça maintient une certaine humidité à l'intérieur, et il fait sombre. Ça veut dire que ça va monter, ça va aider les pousses à monter jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau, on va dire 2 mètres de haut, où elles seront défensables. Donc même si les troupeaux passent, ils ne vont pas les abîmer. Et une fois que c'est comme ça, on va lier tous ces brins ensemble de façon assez serrée. Et puis les tiges vont continuer à croître. Et peu à peu, il va y avoir une soudure des tiges, une coalescence des tiges qui... alors là, vous avez plusieurs... c'est ce que je n'ai pas mentionné hier. Vous avez toute une forêt de rejets. Et au fur et à mesure, tout ça va être trogné par la suite. Hein, et donc, on va former la trogne déjà sur l'arbre. L'arbre, en même temps, va être trogné et va être soudé. Et donc, peu à peu, avec cette soudure des troncs, on va arriver sur des individus beaucoup plus âgés, à ces troncs cannelés qui sont le signe vraiment de cette activité de soudure des troncs. Donc là, c'est un arbre qui est issu de une dizaine, une quinzaine de tiges, donc une quinzaine de systèmes racinaires différents, souvent une quinzaine de génomes différents. Donc c'est vraiment un surarbre parce qu'il est bien plus équipé et bien mieux équipé que les arbres qui poussent tout seuls et sur lesquels on n'intervient pas. Et ça, comme intelligence paysanne, ça se pose là quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les arbres ? Eh bien, on peut faire des arbres avec des choses qui, si on ne travaillait pas dessus, ne donneraient pas des arbres. Et là, on va aller voir l'arganier. L'arganier du Sousse, que vous connaissez, vous avez sans doute tous entendu parler, au moins de l'huile d'argan, produit qui a aujourd'hui envahi tous les rayons cosmétiques des supermarchés. Et donc c'est un arbre qui produit des noix, dont on extrait une huile qui était traditionnellement utilisée en médecine, en cosmétique locale et en alimentation. Donc une huile à tout faire. Et voilà ce qu'on présente, voilà comment on présente l'arganier, un bel arbre majestueux, effectivement, c'est majestueux. On est dans le sud-ouest du Maroc, on n'est pas très loin du désert quand même, hein. On n'est pas loin de l'océan non plus. Donc il fait un peu humide encore, mais pas trop, il pleut pas beaucoup. Et voilà, on a ces arbres majestueux au milieu des champs de céréales, et tout le monde dit voilà ce que c'est qu'un arganier. Et le problème, c'est que les habitants, les agro-pasteurs, sont le danger numéro un pour l'arganier. Alors, quand on étudie les pratiques, quand on va regarder ce que font les gens, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que cet arbre, il ne vient pas si naturellement que ça. Parce que quand germe un arganier, ça c'est une germination, ça n'a pas été planté. Hein, les écureuils se chargent de planter les arganiers dans les tas de pierres qui sont autour des champs ou au milieu. Voilà, il va germer et puis il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiges. Pourquoi ? Parce que le bourgeon terminal va très vite être dévoré par des insectes, par des moutons, par des chèvres qui passent, enfin, ou par un peu trop de sécheresse. Et donc, si vous laissez pousser ça, vous aurez une espèce de taillis. Et certainement pas un arbre, parce qu'il n'y a pas de dominance apicale qui va permettre la croissance d'un tronc unique. Et donc, si vous voulez un arbre, là, il va falloir intervenir. Et intervenir dès ce stade-là, on peut intervenir plus tard, hein, en sélectionnant des brins au milieu d'un taillis. Vaut mieux intervenir à ce moment-là. Et là, sélectionner quelques brins. Ici, vous en avez deux principaux, puis deux de secours. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, au fur et à mesure que va croître ça, on pourra aussi sélectionner. Et il y a une certaine dominance apicale qui va se réinstaller. Et peu à peu constituer un tronc. Mais il faut aussi intervenir sur le tronc parce que l'arganier a une fâcheuse tendance à vouloir rejeter du bas et puis à faire des rejets sur le tronc. Donc si on veut constituer un arbre, il faut intervenir en permanence jusqu'à ce que l'arbre soit suffisamment constitué. Donc le terme qui est utilisé pour toutes ces pratiques de taille de l'arganier, c'est le terme éduquer l'arganier en arbre. C'est le même terme que celui qui est utilisé pour éduquer les enfants. C'est exactement la même chose. Si on laisse un enfant sans éducation, il va être complètement... Ça va être la brousse. Il ne sera pas du tout apte à vivre en société. Si on laisse un arganier, là aussi, ça va être un arbre de brousse, un arbre buissonnant, mais certainement pas un arbre comme celui que je vous ai montré. Là aussi, c'est une intelligence paysanne incroyable. Et quand on raconte ça en forestier, ils nous disent ben non, l'arganier, ça pousse tout seul. Évidemment, regardez. Mais non, l'arganier, ça ne pousse pas tout seul. L'arganier, la plupart du temps, ça fait des petits arbres rabougris, ça fait des arbres à plusieurs tiges. Si on veut avoir ces arbres-là, il faut les travailler profondément. Et puis, on peut les travailler aussi, les arganiers, pour permettre aux chèvres, et ça, c'est plutôt dans les parcours, pour permettre aux chèvres d'accéder à la couronne, parce que ces chèvres... certaines chèvres de la région de l'arganier ont la particularité de monter dans les arbres pour se nourrir directement dans la couronne à partir des feuilles et à partir des fruits. Et donc, pour faciliter l'accès à ces chèvres, parce qu'une chèvre, même si c'est grimpeur, ça grimpe difficilement sur un tronc droit et lisse et haut, et bien on va essayer de favoriser des branches basses. Et ça, ça ne se voit pas, hein. C'est un travail du berger quand il passe. Il va mettre un caillou dans là où il faut, il va mettre plusieurs cailloux pour incliner une jeune branche qui va partir sur un jeune arganier, pour qu'à terme, il y ait ces formes d'arbres qui sont idéales donc, pour les chèvres. Ce qu'on peut faire aussi avec les troncs, là on sort du domaine de l'arbre, tel qu'on l'entend, hein, c'est-à-dire un tronc et un houppier, et on, c'est toujours l'arganier. Et on peut faire des haies plessées avec l'arganier. Et ça, c'est essentiel dans une région où il y a de la culture, à la fois des cultures de céréales et des troupeaux qui passent tous les jours. Il faut faire des haies, il faut protéger les champs de céréales, des troupeaux. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait des haies plessées, comme on faisait chez nous autrefois, et donc avec un tissage de brins verticaux, de branchages horizontaux, hein, tout ça est entremêlé, et tout ça se soude au fur et à mesure jusqu'à constituer une architecture végétale totalement impénétrable. Et en plus, l'arganier étant épineux, il y a, pardon, au pied de cet arganier, pas là, mais juste à côté, donc ces rejets, hein, qui sont à la base de l'arganier, qui vont permettre, qui vont accroître cette qualité de muraille végétale. Voilà, ça c'était pour vous dire que ce n'est pas uniquement une invention de l'autre côté de la Méditerranée, mais qu'on a des plessés chez nous aussi. Alors très vite, quelques paysages de trogne. Donc là, le pistachier de l'Atlas dont je vous ai un peu parlé, qui est cet arbre, c'est un arbre ubiquiste au Maroc, enfin dans tout le Maghreb, qui a été abondamment décimé par les forestiers coloniaux français qui trouvaient qu'ils avaient beaucoup de bois et un bois intéressant. Donc la plupart des peuplements forestiers d'Algérie, de pistachiers de l'Atlas, ont été mis à mal par les forestiers coloniaux français. Là, par contre, il est utilisé sur une région très karstique, donc très peu de sol, juste dans des toutes petites cuvettes où on peut cultiver des céréales. Voilà, là, vous avez une jeune culture d'orge et vous avez ce pistachier de l'Atlas qui a été trogné à la saison précédente, à l'automne précédent, et celui-là qui a été trogné sans doute 3-4 ans avant. Et donc, grâce à la présence de ces arbres, on peut avoir ça enrichit complètement l'élevage, ça apporte de l'humidité aux céréales qui sont là, et ça permet une croissance. Voilà, l'ombrage là aussi est important. C'est l'ombrage ne fait pas ne nuit pas à la croissance des céréales, au contraire. Et vous voyez, donc voilà, ça a été en cours de trognage. On voit les restes de branches qui ont été mangées par les troupeaux, et vous voyez un peu ce que peuvent donner ces arbres. Donc on est dans des conditions où il n'y a pas de sol, le pistachier envoie des racines là où il peut, mais très profond, et avec ces générations de pratiques de trogne, on a des arbres absolument géants, pas en hauteur mais en tout cas en largeur. Autre paysage de trogne au Maroc, là on est sur des trognes de frêne, le frêne méditerranéen, le frêne oxyphile. Là aussi, un paysage harmonieux où on a une répartition entre des éléments forestiers, des cultures et des parcours un peu derrière. Et les animaux, les troupeaux peuvent évidemment être amenés sur les champs une fois que les cultures ont été broutées. Voilà, un autre paysage. Autre chose à réinventer effectivement dans nos zones un petit peu montagneuses si l'aridité arrive, c'est la terrasse qui est un des premiers outils pour lutter contre l'aridité, pour stocker l'eau et pour lutter contre l'érosion. Il y en a partout, hein, chez nous, elles sont toutes abandonnées, tout le sud du Massif central est plein de vieilles terrasses d'une extraordinaire intelligence, mais qui sont très mises à mal par les sangliers. Voilà, donc là, vous avez des trognes de frênes, des trognes de caroubiers dans ce paysage magnifique. Les chênes, alors les chênes verts aussi, très présents au Maroc, qui sont trogniers, alors là aussi, pour la nourriture. Et ce dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est qu'on le voit ici, mais c'est très particulier dans l'Arganeraie, vous avez des chèvres grimpeuses. Et vous avez des chèvres qui vont se nourrir en se mettant sur les pattes de derrière. D'où cette taille. Là, comme on trouve chez nous, hein, dans le bocage, les chênes sont taillés par les bovins. Et ils ont aussi ce plateau inférieur. Et dans les troupeaux de l'Arganeraie, on peut y revenir, on y reviendra après, mais dans ces troupeaux de l'Arganeraie, il y a un équilibre entre les chèvres grimpeuses et les chèvres qu'on va appeler, qui se mettent sur leurs jambes, là, les chèvres. Et cet équilibre d'effectifs est choisi en fonction de l'état des arbres. Mais je crois que je vais vous en parler juste après. Donc, on peut aussi, sur ce chêne vert, alors, avoir soit une alimentation directe pendant le parcours. On va trogner et donner à manger aux animaux, comme je vous ai montré sur le Friendly Morph. Soit on va couper du fourrage frais pour le ramener au village pour donner à des animaux qui sont en stabulation. Et puis, dans cette forêt de chênes verts, vous voyez, intégration des cultures de céréales sous les chênes. Là, encore une fois, l'arbre ne gêne pas les cultures, mais au contraire, c'est un commensal des cultures et un auxiliaire. Même chose avec le thuya. Là, vous avez plutôt des tailles en émonde sur le thuya. Mais bon, je vais passer vite. Et là, c'était juste pour vous montrer ce que peut donner un parc de trogne à Friendly Morph, avec, comme vous voyez, ces arbres, avec des productions, des tailles multiples et des productions multiples. Alors, effectivement, les forestiers sautent en l'air quand ils voient ça, en disant, mais ils massacrent les arbres, ce sont des délinquants, il faut leur mettre des amendes ou les mettre en prison immédiatement, parce que oui, c'est tellement éloigné de l'idée d'un arbre par un forestier que c'est difficilement compatible, et dans l'histoire, ça a été difficilement compatible. Alors, repenser l'écosystème. Comment est-ce qu'on peut repenser un écosystème de forêt de façon à avoir un système agroforestier? Ça, c'est le modèle de la forêt pour produire, c'est vraiment le jardin-forêt. C'est l'agroforêt tropicale, et ça, j'en ne parlerai pas ici, mais on est dans des conditions d'aridité et on est dans des écosystèmes naturels de forêt claire, non jointive. Et on va retrouver un design agroforestier qui est totalement inspiré de ces forêts claires arbres non jointifs. C'est cette DSA dont je vous ai parlé. Donc des parcs agroforestiers. Donc vous voyez, on est dans une forêt claire, mais c'est une forêt aménagée depuis des générations. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des références à ce mode d'aménagement des forêts. Et donc, je vous rappelle une taille minutieuse des arbres, à la fois pour le fourrage foliaire et à la fois pour la production des glands. Et dans la DSA, on a aussi la place pour la culture des céréales. Ce que vous voyez ici, là, on a des jeunes cultures de... Je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, qui poussent en même temps à l'ombre des arbres. Parce que grâce aux arbres, on a cette humidité du sol, cette humidité de l'air qui va être bénéfique aux céréales, beaucoup plus bénéfique que ce qu'on dit. Voilà, je vous remets celui-là pour mémoire. Donc, production animale. La production animale dans la DSA, ce n'est pas uniquement le porc, c'est aussi ces grands troupeaux de bovins. Alors, beaucoup de races, cette petite vache noire espagnole qui sont aussi des races de corrida, mais qui sont des races des races bovines à viande, qu'on va retrouver dans le sud de la France aussi. Et aujourd'hui, il y a énormément dans les manades de troupeaux qui sont conduits, des taureaux, ce qu'on appelle les taureaux de Camargue, qui sont conduits pour la viande dans des garrigues. Donc, on est là aussi dans des forêts claires. Et là, voilà, dans ces forêts claires sont aussi aménagées. La production de viande bovine de la DSA est tout à fait importante. Et puis, il y a aussi production de fourrage, hein, fourrage sec pour l'hiver. Et puis, tous les autres produits de l'arbre qu'il ne faut pas oublier, parce que l'arbre n'est pas là uniquement pour produire du fourrage et des glands. Il est là aussi pour produire, alors, toujours des glands. Ici, vous voyez, il y a du gaulage. Et c'est des glands qui sont ici ramassés pour la production de liqueurs. Ça nous rappelle très vaguement qu'autrefois, et on retrouve ça aussi au Maroc, il y avait des espèces de chênes qu'on appelait des chênes à glands doux qui étaient immédiatement consommables, comme des châtaignes. C'est encore dans le Rif, vous pouvez acheter des glands que vous faites griller directement, comme des châtaignes. Le gland était autrefois en France a été pendant longtemps une alimentation importante. C'est mentionné il me semble que c'est Pline qui mentionne ça, qui mentionne le commerce des glands pour l'alimentation humaine. Donc, à l'époque romaine, c'était tout à fait connu. Ça a été ensuite complètement évincé par comme a pu être le châtaignier. C'est-à-dire que la culture de l'arbre n'est pas une culture morale, et manger des nourritures de l'arbre, c'est pas moral. Ce qui est moral, c'est de manger des céréales, et donc on oublie très vite qu'on a été des mangeurs de fruits de l'arbre.
Et...
Oui, aussi. Ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, oui. Voilà, donc ces nombreuses nourritures de l'arbre, y compris des champignons ici, en bas à gauche. Voilà, du bois pour le charbon ou pour le combustible. On retrouve exactement le même modèle, le même design agroforestier dans la forêt d'Arganier, dans une partie de la forêt d'Arganier qui est un parc agroforestier. Donc ça, c'est plutôt dans les fonds de vallée, dans tous les endroits où on va pouvoir cultiver des céréales. On va penser à ce parc. Et là, vous avez un très beau parc, pas très loin des Saouira. Vous voyez cette mosaïque de champs et d'arbres, beaucoup d'Arganier, beaucoup d'oliviers, quelques amandiers et ces cultures d'orge qui sont là. Orge et blé, et donc un paysage très productif, je vous dis, dans des conditions quasiment désertiques. Donc ces arganiers, on retrouve hein, ces arganiers des champs, et vous comprenez pourquoi là on ne peut pas avoir un taillis, ça occuperait beaucoup trop de place. On a donc un arbre qui a été conduit en arbre. Pourquoi ? Parce que ça permet la cohabitation avec les céréales, et vous voyez là que les céréales, elles poussent aussi à l'ombre de l'arganier. Et puis, on a un arbre donc, qui va être beaucoup plus productif en fruits que les petits taillis qu'on va trouver dans les parcours. Et là, donc, vous avez le ramassage des noix d'argan par les femmes et par les hommes aussi, hein, en période. Donc ça, c'est après la culture de céréales, arrive la saison des noix d'argan. Et là, il faut absolument interdire aux troupeaux de venir. Ce n'est pas encore le moment qu'ils viennent manger les chaumes parce qu'ils vont manger en même temps les noix d'argan. Donc, comment on fait ? Eh ben, on décrète ce qu'ils appellent l'Agdal. L'Agdal, c'est une fermeture de tout le territoire du parc agroforestier aux animaux. Donc, pendant tout le temps que va durer l'Agdal, donc une mise en défense temporaire, pendant le temps que va durer l'Agdal, les troupeaux sont interdits dans tout le périmètre du village. Il faut aller les nourrir assez loin en forêt. Et évidemment, si un troupeau parcourt un champ d'arganier et va manger les noix d'argan, il y a des sanctions, qui sont des sanctions décidées collectivement. C'est une gestion collective de l'espace sur des parcelles qui pourtant sont des parcelles là, en propriété privée ou lignagère. Donc on peut tout à fait avoir des règles collectives respectées par tout le monde sur de la propriété privée. Bon, il n'y a pas le sens absolu de la propriété privée qui est donné dans la Constitution française. De toute façon, ce qui est important à retenir, c'est que avec cette gestion de l'arbre et cette gestion pour permettre cette gestion de la cohabitation, pour permettre la cohabitation entre l'élevage, la culture de céréales et la production de noix d'argan, il faut ce qu'on appelle une gestion sociale, c'est-à-dire des règles qui vont être décidées collectivement et respectées par tous, et avec tout un système de sanctions pour ceux qui ne respectent pas, mais en général, c'est tout à fait respecté. Et puis, une fois que tout ça est passé, on peut mener les troupeaux pâturer dans les zones de culture. On peut aussi produire du miel. Hein, toujours penser à ces productions annexes qui sont alors aussi aujourd'hui difficiles au Maroc parce que la varroa a envahi toutes les ruches marocaines avec tous les trafics de rennes et d'essaims. Ils n'ont pas encore le frelon asiatique, heureusement pour eux. Mais voilà, cette présence de grands arbres qui ont une floraison abondante permet aussi la production de miel d'arganier. Juste pour vous montrer à quoi ressemble la forêt de parcours, parce que l'arganier, c'est 800 000 hectares. Hein, c'est énorme, c'est presque 1 million d'hectares, 2 millions de personnes qui habitent dans cette zone. Et donc, ce n'est pas partout du parc agroforestier avec des cultures, c'est énormément ces zones de forêt. Vous voyez, un forêt clair, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu ailleurs, sauf que là, les arbres sont beaucoup plus petits. Ils n'ont pas été éduqués en arbres comme les autres, et puis il n'y a pas de culture de céréales. Mais c'est là qu'on va mener les troupeaux à pâturer. Ah non, c'est là. Voilà à quoi peuvent ressembler ces arganiers de parcours. Et donc, oui, ce que je vous disais, c'est, on ne le voit pas sur cette photo, mais cette gestion très particulière de l'élevage, une gestion conjointe de l'élevage et des arganiers. C'est-à-dire qu'on a cette proportion calculée par le berger entre les chèvres grimpeuses et les chèvres qui se mettent debout sur leurs pattes. Alors, il y a quelques signes que les bergers connaissent et qui peuvent leur faire dire que l'arganier, là, ils commencent à souffrir. Il ne faut plus que les chèvres montent dedans, en tout cas pendant un moment. Et à ce moment-là, ils vont empêcher leurs chèvres grimpeuses de monter dedans. Hein, ils lancent des pierres. Et puis, ils vont réduire dans leur troupeau la proportion de chèvres grimpeuses pour augmenter celle de chèvres qui se mettent debout. Et donc, vous voyez là encore cette intelligence du berger qui à la fois combine une connaissance de l'arbre, une connaissance du troupeau et une connaissance de l'interaction entre l'arbre et le troupeau. Là aussi, c'est une intelligence hein, qu'on ne sait pas, on n'apprend pas ça à l'école, mais c'est d'une très, très grande finesse. Et très vite, donc, on retrouve ça aussi même dans le Sahara, même dans le désert, cette gestion de forêt-parc avec l'acacia, qui est un acacia radiana. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas que ce n'est pas du tout l'acacia qu'on trouve chez nous, hein, qui est un robinier, faux acacia. Là, c'est un véritable acacia. Donc, qui est géré pour à la fois, qui sert de fourrage aux troupeaux, de dromadaires, d'ovins et de caprins, mais pas uniquement. Voilà, l'acacia, donc ces forêts d'acacia qui sont des grandes zones de parcours pour les troupeaux. Et là aussi, avec des chèvres capables de monter dans la couronne. Et vous voyez là que les bergers vont gauler l'acacia. Alors pourquoi cet acacia radiana, il fait des feuilles à contre-saison, c'est-à-dire qu'il fait ses feuilles en été, pendant que tout le reste de la végétation est complètement sec. Donc, l'alimentation majeure des troupeaux en été, c'est ses feuilles d'acacia et les fruits aussi, les gousses d'acacia, qui, encore une fois, comme pour le frêne, sont une nourriture de choix pour les animaux. C'est du concentré de protéines et de minéraux. Et donc, tout ça est gaulé par les bergers pour donner à manger aux troupeaux le long du parcours. Et vous voyez ces trois formes de l'acacia. Donc, on a des acacias en arbre qui sont souvent aussi conduits en arbre. Et ces acacias plutôt en taillis ou buissonnants. Et ce que je voulais dire c'est que la conduite, c'est vrai aussi pour l'arganier, mais la conduite de l'acacia en arbre, c'est d'abord un souci intergénérationnel. Ça pousse lentement. Donc, on va commencer à éduquer un arganier ou un acacia en arbre pour les générations qui viennent. Et c'est aussi une opération quasi invisible. C'est-à-dire que les bergers vont passer, ils ont une hache ou ils ont un couteau et ils coupent le rejet. Donc ça ne se voit pas. Ce n'est pas un travail qui se voit. Ils ne disent pas, je pars avec ma hache pour tailler mon arganier. Non, je pars avec mes moutons et en passant, je vais faire en sorte que là il y a un rejet qui ne va pas, je l'enlève. C'est ce qui rend aussi ces pratiques invisibles. Et quand des pratiques sont invisibles, évidemment, elles ne sont pas reconnues. Et c'est ça un peu le problème de toutes ces pratiques paysannes, c'est qu'on ne les voit pas, parce que c'est au fur et à mesure du travail quotidien, hein, soit de culture, soit de soins des troupeaux, c'est un travail invisible, c'est des petits gestes, c'est pas quelque chose qui est exprimé, ni enseigné, ni transmis de façon orale. Hein. C'est les enfants qui vont suivre les parents pendant le parcours, ils vont voir, ils vont demander au père, tiens, pourquoi tu fais ça ? Parce que... Mais de la part d'un regard extérieur, c'est invisible. Il faut passer du temps avec les bergers et puis il faut les interroger. Mais si on ne veut pas les interroger, on va dire ils font rien et puis ils n'ont aucun savoir. Et c'est le grand problème de toutes ces pratiques paysannes, c'est que si on va pas interroger les agriculteurs, les paysans, on se dit non, ils ne savent pas faire. Et donc, ces deux formes de l'acacia, vous voyez, un port un peu élevé qui permet aux chèvres de se nourrir et un port bas, donc buissonnant, qui va permettre aux moutons de se nourrir. Et puis, l'ombrage essentiel pour les troupeaux, pour les bergers, parce que pendant l'été, quand vous menez vos troupeaux en parcours, il fait vraiment très, 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 très chaud. Hein. Et donc, s'il n'y a pas cet ombrage de l'acacia, on ne résiste pas. Hein. Voilà. Et puis, le parc agroforestier avec ses acacias au milieu des champs de céréales. Alors, les cultures de céréales, ce n'est pas tous les ans, c'est tous les 4 ans, tous les 6 ans. Quand il y a eu une bonne pluie, et c'est dans les zones de bas-fond, là, le sol est suffisamment gorgé d'eau pour qu'on vienne le cultiver. Et vous voyez une cohabitation tout à fait facile entre les acacias et les céréales. Donc, quels enseignements de tout ça ? Il y en a énormément. Hein. Je suis passée très vite sur pas mal de choses. Et peut-être que cette image les résume parfaitement. Voilà, ça c'est un arbre en milieu sec. Après deux, c'est un arganier. Après 2 années de saison quasiment sans pluie. Un printemps, un été, un automne, un printemps sans pluie. L'arganier, lui, il a refait ses feuilles, qui sont des jeunes feuilles, ça se voit, elles sont d'un vert très tendre, parce que l'arganier, il est capable de refaire des feuilles dès qu'il y a un tout petit peu d'humidité dans l'air. Et 2 mois avant, ils étaient complètement défeuillés, ces arganiers, tellement il faisait chaud et sec. Mais il ne fait pas assez humide pour que l'herbe pousse, mais elle pousse là, à l'aplomb de la couronne. Et je vous assure, ce paysage, c'était assez extraordinaire. Donc un paysage tout sec, à un moment où il aurait dû être assez vert quand même, avec des taches vertes. Et toutes les taches vertes étaient à l'aplomb de la couronne des arganiers. Et là, c'est là qu'on comprend l'importance de l'arbre dans des conditions d'aridité. S'il n'y avait pas d'arbre, il n'y aurait rien. Et donc cet arbre, de tout ce que je vous ai dit, il permet à la fois de maintenir l'humidité par son feuillage sous sa couronne. Il peut faire éventuellement filet à brouillard. Ça, c'est aussi quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc retenir l'humidité et puis le peu d'humidité qu'il y a dans l'air et grâce à sa trame de feuillage, la redistribuer en dessous. Et puis, ascenseur hydrique, donc remonter des eaux profondes vers le sol pour permettre la croissance des herbes. Voilà. Donc, indispensable. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Donc, j'espère que vous l'aurez compris, c'est un allié indispensable de la production agricole. Je vous ai montré suffisamment d'images où il y avait cette cohabitation entre les arbres et les champs de céréales, la production de céréales. On va retrouver ça aussi, les plantations d'oliviers traditionnelles au Maroc. Il y a des céréales partout entre les plants d'oliviers, entièrement compatibles avec ces cultures annuelles, et en particulier les céréales. Pilier de l'élevage, là aussi, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, et pilier de l'habitat humain. C'est l'arbre qui rend l'habitat humain confortable en contexte d'aridité. Dans les zones sahéliennes, dans les villages sont ombragés par les arbres parce que sinon c'est ingérable, c'est invivable tellement il fait chaud. Donc des pratiques à réinventer, la trogne, oui bien sûr, mais pas uniquement. Et si je vous ai parlé de toutes ces pratiques autour de l'arbre, c'est pour faire germer des idées. C'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses à inventer avec l'arbre, parce que l'arbre, c'est un être absolument incroyable qui se prête à énormément d'expérimentations. Et dont certaines expérimentations semblent lui profiter, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu sur les pratiques que je vous ai montrées sont profitables à l'arbre. C'est aussi des pratiques de gestion collective, ce qu'on appelle la gestion sociale. Donc des mises en défense, des règles décidées collectivement, des règles qu'on essaye de respecter collectivement. Et si ce n'est pas respecté, une assemblée villageoise qui va donner des sanctions à tous les contrevenants. Des machines adaptées, effectivement, tous ces systèmes que je vous ai montrés au Maroc ne connaissent pas le machinisme agricole. Dans la DSA, oui, mais on a des petits tracteurs. On n'a pas des gros tracteurs, on a des petits tracteurs capables de passer sous les arbres, de passer entre les arbres, capables aussi de supporter un bras élévateur pour que le paysan puisse aller tailler son arbre sans être obligé de monter. On peut réinventer des machines qui soient compatibles, qui seront compatibles avec des arbres. Ça, il suffit aussi d'interpeller un peu tous nos instituts de recherche pour leur dire c'est fini là, les recherches sur le gros machinisme agricole, penchez-vous un peu sur des petites choses adaptées et on en aura d'autant plus besoin qu'on va arriver à la fin du pétrole. Réinventer des savoirs, alors ça peut être retrouver des savoirs anciens mais bon, qui seront peut-être plus pertinents, c'est réinventer des choses aujourd'hui qui sont pertinentes dans les conditions d'aujourd'hui, qui vont être pertinentes pour les conditions de demain. Ça peut pas se faire tout seul, ça demande vraiment de mettre en place une intelligence collective, des échanges, d'expériences, de pratiques, de savoir-faire, de savoir-être. Voilà, tout ça, ça se construit collectivement au sein d'initiatives, d'associations, d'événements comme ici, comme celui-là. C'est cette intelligence collective qu'il faut retrouver à l'heure où les agriculteurs sont de plus en plus, de par l'évolution de l'agriculture et de par la surcharge de travail qu'ils ont et de plus en plus isolés. Retrouver cette solidarité qui était autrefois, alors pour le meilleur et pour le pire, dans les sociétés paysannes, mais il y avait vraiment un fonctionnement collectif. Voilà. Pas de recette généralisable, encore une fois. chaque région, chaque terroir doit inventer sa propre façon de faire, de réintroduire l'arbre. Ne pas oublier qu'il existe encore des tas de structures arborées dans nos paysages et qu'il faut partir de là. Hein. On ne va pas tout replanter. C'est très bien de replanter des lignes d'arbres, mais ce serait tellement mieux d'abord de commencer à faire avec ce qu'on a, ensuite de protéger ce qui vient naturellement. Les arbres, sous nos climats, ça germe encore. Hein. Donc profitons-en, protégeons-les, mettons-les à profit et avant de réintroduire des arbres qui... Ça coûte cher de réintroduire des arbres. Hein. Faire avec l'existant, ça n'est pas si cher que ça. C'est en tout cas beaucoup moins cher. Voilà. Merci.